Bonsoir, il est 19h, un peu passé, mais bon, quand même encore 19h, et donc c'est les Canu Info. Le vendredi, une semaine sur deux, c'est sur les luttes sociales, mais en fait, comme tout est politique et qu'on hiérarchise pas les luttes et les oppressions et tout ça, bah, on parle de tout. Alors cette semaine, on va parler du Qatar et de la préparation de la Coupe du Monde, et notamment des conditions de travail des ouvriers qui participent à la préparation de cette Coupe du Monde. On parlera aussi de la proposition de loi pour une amnistie sociale qui a été votée au Sénat, des différentes réactions au PS et dans l'opposition. On parlera un petit peu d'hétérosexisme et d'élitisme avec un communiqué de collectif féministe des grandes écoles en France. On écoutera aussi un témoignage d'une personne qui raconte son parcours avec la justice et la prison. Ensuite, selon le temps qui nous restera, on parlera un petit peu du mariage homo et du regroupement familial aux États-Unis. De l'association Belle Étoile à Calais et de l'affaire de la viande de cheval et la réaction de Benoît Hamon. Et enfin, du Harlem Shake à Tunis, ça c'est si on a le temps. On verra bien. Et donc on commence tout de suite avec le Qatar. Le Qatar où toutes les heures, 20 nouveaux ouvriers arrivent pour construire un immense projet qui est baptisé Qatar 2030 et dont l'élément phare ce sera donc cette Coupe du Monde qui est prévue pour 2022. Et selon l'Organisation Internationale du Travail, il y aura 1 million d'ouvriers, donc pour la plupart immigrés, qui seront engagés au Qatar d'ici 2022 pour construire un aéroport, des infrastructures hôtelières et 9 grands stades ultramodernes et démontables puisque le Qatar n'en a plus besoin après la Coupe du Monde. Avant que ces ouvriers arrivent dans le pays, donc le pays le plus riche du monde par habitant, le fonctionnement en gros c'est qu'on leur parle d'un salaire mensuel de 1200 à 1300 riyals, ce qui fait à peu près 250 à 270 euros, et dans les faits ce sera plutôt la moitié, ça c'est ce que dit la conférence syndicale internationale, la CSI, et sa secrétaire générale Sharon Barrow, elle disait que ces travailleurs n'ont pas de voix, ils ne sont pas autorisés à se syndiquer, ils n'ont pas de liberté au Qatar. Nous devons mettre la pression sur le gouvernement qatari pour qu'il y ait une amélioration, et aussi plus de travailleurs vont mourir pendant la construction donc des stades, que de footballeurs ne fouleront les terrains. Voilà, donc en fait c'est parce qu'il y a déjà des accidents, beaucoup d'accidents, il y a des chutes d'échafaudage, les chutes d'échafaudage c'est la deuxième cause de blessures graves au Qatar après les accidents de la route, et c'est très compliqué de définir précisément le nombre de travailleurs blessés sur les sites en construction, on estime qu'au moins 300 ouvriers du bâtiment meurent chaque année sur leur lieu de travail. Il y avait une ONG qui expliquait aussi, donc tout ça c'est un article qui a été publié sur Rue 89, et donc dans cet article une ONG expliquait « Souvent les travailleurs se sont lourdement endettés pour arriver au Qatar, ils voient fréquemment leur passeport confisqué et peuvent être contraints de signer un nouveau contrat en arabe qu'ils ne comprennent pas ou qui revoient leur salaire à la baisse. S'ils décident de fuir, s'ils se blessent ou ne peuvent plus travailler, ils n'ont plus de moyens de subsistance, ayant rompu leur contrat de parrainage, ils sont également susceptibles d'être jetés en prison à tout moment. » Et au Qatar, en plus, un seul syndicat est autorisé et les étrangers en sont exclus. Et sauf que le problème, il faut dire, c'est qu'au Qatar, donc toujours, il y a environ 1 450 000 habitants en 2010, dont 90% sont des citoyens étrangers. Et donc il y avait un chercheur, enfin l'auteur d'un livre qui s'appelle L'énigme du Qatar, Nabil Enasri, qui disait que ces travailleurs immigrés sont victimes d'une ségrégation. Donc je cite, certains jours, les week-ends notamment, sont interdits aux immigrés dans les grands centres commerciaux et ils vivent dans des labor camps, des camps de travail, en périphérie des grandes villes. Donc l'image que renvoient ces camps d'immigrés, c'est un problème pour la monarchie qui va apparaître comme un modèle de développement dans la région. Et donc le gouvernement qatari avait récemment fait construire un camp, le camp de Barwa El Baraha, ce qui serait un prototype de ville nouvelle pour quelques 50 000 travailleurs immigrés pour répondre à l'indignation de la communauté internationale. Et donc Nabil Enasri toujours disait « Mais la question législative et juridique et les conditions d'accueil et de transit des ouvriers ne bougent pas encore, alors que c'est précisément ce que demande la CSI, donc la Confédération syndicale internationale. » Et puis il ajoutait « Il n'y a que 150 inspecteurs du travail pour une population de près de 2 millions d'habitants et d'environ 600 000 ouvriers du bâtiment. » Donc voilà, il y a des manques dans les moyens matériels. En fait, tous les ouvriers qui sont présents au Qatar ne sont pas des travailleurs forcés, mais le système en place permet, voire facilite leur exploitation. Et donc système, c'est le kafala. En gros, pour s'installer ou travailler, tout étranger doit, dans le Golfe, qu'il soit entrepreneur ou simple ouvrier, il a besoin d'un calife, en gros ça veut dire un sponsor, qui est à la fois le garant juridique de sa présence dans le pays, et un intermédiaire avec la société locale. Et au départ, ce système, ça permettait de déléguer à la société civile le contrôle et la régulation de l'immigration. Mais le développement à grande vitesse du Qatar et de ses voisins ne permet plus aujourd'hui cette régulation. Et donc les travailleurs immigrés sont soumis à leur employeur qui joue à la fois le rôle du garant, du parrain et qui leur permet d'entrer sur le territoire. Donc voilà, avec tout ça, le Qatar viole des traités internationaux qu'il a ratifiés, comme par exemple le protocole international contre le trafic des êtres humains de l'ONU ou la convention contre le travail forcé. Et la FIFA, la Fédération internationale de foot, avait attribué l'organisation de la Coupe du Monde de football au Qatar. Donc c'est la première fois qu'un pays arabe sera l'hôte d'une compétition internationale de cette envergure. C'est un peu l'occasion de parler des conditions de travail et du non-respect du travail au Qatar, mais c'est aussi l'occasion de ne pas oublier que ça existe aussi en France, par exemple. Et on fait une petite pause musicale.
Daniel Dark, enfin plutôt Taxi Girl, avec un des membres qui s'appelait Daniel Dark et donc qui est mort aujourd'hui. C'était un petit morceau hommage.
Et on continue les infos avec une proposition de loi qui a été adoptée au Sénat pour une amnistie sociale. Donc qui a été adoptée mercredi. C'est une amnistie des délits et sanctions pour des faits commis lors des mouvements sociaux. Donc en fait, ça c'est une vieille revendication qui était portée pendant la campagne présidentielle, par exemple par Mélenchon, et qui a été proposée au Sénat par des élus PC. L'objectif c'est d'annuler des peines pour, là je cite la loi, enfin le texte, des faits commis à l'occasion de mouvements sociaux et d'activités syndicales et revendicatives. Et par exemple dans le texte, on cite Xavier Mathieu, un délégué CGT de Continental et Conti, qui avait été condamné à 1 200 € d'amende par la cour d'appel d'Amiens pour avoir refusé un prélèvement ADN, ou un leader de la Confédération Paysanne qui a été condamné à payer une amende de 2 000 €, dont 1 000 avec sursis, pour s'être opposé à la construction de l'EPR, en retirant des boulons pour un pylône en construction. Ces deux-là, ils sont cités explicitement dans le texte, mais l'enjeu, c'est un peu qui d'autre ça concerne. En tout cas, la proposition, elle a été déposée par elle a été présentée par le PC, le groupe communiste, au Sénat. Et elle avait d'abord été refusée par la Commission des lois du Sénat le 13 février, à une voix près. Le PC, le groupe communiste du Sénat avec le parti de gauche et appuyé par la CGT se sont entre-temps mobilisés en faveur du vote de ce texte, en organisant par exemple une manifestation devant le Sénat, et il a donc finalement été voté de justesse par 174 voix contre 172, donc à 2 voix d'écart, par les groupes PC, CRC, donc, PS, pardon, CRC, donc c'est les communistes, écologistes et la plupart des sénateurs RDSE, donc c'est les radicaux de gauche, et contre la voix les voix de la droite UMP et des centristes. Alors, le texte, donc la proposition, elle a voté au Sénat, ça veut dire que le texte n'est pas encore adopté, mais il y a déjà des réactions. Par exemple, c'est un peu un best-of, Rachida Dati, donc UMP, qui était ministre de la Justice, qui dit « Moi, ce qui me gêne dans l'amnistie, c'est que le gouvernement actuel répond à une clientèle. Et puis, comme le climat est en ce moment très dur, on a l'impression qu'on leur dit « Comme on peut rien faire pour vous, c'est pour défendre votre emploi, finalement, on vous amnistie, soyez déjà contents. » Donc c'est pas faux, mais c'est quand même... bien, parce que enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'elle rajoute après, c'est qu'elle considère qu'il est légitime de pouvoir se rebeller, mais je ne vais quand même pas cautionner la casse. Et donc là, c'est le grand truc de la violence, la casse. C'est ce que dit aussi Laurence Parisot, la présidente du MEDEF. Les chefs d'entreprise qui découvrent ce sujet sont médusés. C'est stupéfiant d'imaginer qu'il puisse y avoir une amnistie pour un petit nombre de personnes qui ont commis des délits, qui ont été actées par la police, qui ont été condamnées par la justice. Donc là, la justice et la police qui sont plus fortes que l'amnistie, et c'est aussi ce que dit Eric Woerth, un autre ancien ministre de l'UMP. Personne ne peut accepter la violence, même lorsque c'est pour des raisons sociales. La violence, c'est le contraire de ce qu'il faut faire, c'est un reniement supplémentaire de la part du gouvernement. On ne peut pas privilégier le dialogue social et en même temps amnistier ceux qui ont fait preuve de violence. Quand on va casser une préfecture ou une entreprise, à ce moment-là, on prend ses risques. Et voilà, bon, il y en a d'autres, mais je dis pas tout. Il y a des réactions aussi à gauche, au gouvernement notamment, Taubira, la ministre de la Justice, qui disait « S'il s'agit ici de faire... qui disait donc qu'il s'agit ici de faire œuvre de justice, l'amnistie c'est œuvre de justice pour Taubira, et Najat Vallaud-Belkacem, la porte-parole du gouvernement, qui disait que le gouvernement doit tenter, avec sa loi, de trouver un équilibre entre, et là je la cite, « droit syndical et respect de la légalité républicaine ». Des grands mots. En vrai, la proposition de loi elle a été largement amendée par les socialistes, avec une grande restriction de son champ d'application. Par exemple, ne sont concernés que les faits qui sont commis entre le 1er janvier 2007 et le 1er février 2013. C'est la période à laquelle la gauche estime, enfin donc la gauche au pouvoir, estime que la concordance de la montée de la crise et de la mise en œuvre par le précédent gouvernement d'une politique pénale très répressive, ça c'est une citation, a pu conduire à des condamnations excessives. Et juste une exception symbolique et historique, le texte amnistie aussi les mineurs condamnés lors des grèves de 48 et 52, 1948 et 1952, dont encore 7 personnes sont vivantes. Enfin, ça compte, mais c'est vieux, quoi. L'amnistie aussi, elle concernera que des faits qui sont passibles de 5 ans de prison au plus que le texte initial incluait, alors que le texte initial inclut des infractions possibles jusqu'à 10 ans. Donc ça exclut les violences physiques, que les sénateurs socialistes et écologistes ont jugé centrales de ne pas cautionner, les atteintes volontaires aux personnes et les infractions commises à l'encontre des personnes dépositaires de l'autorité publique, donc par exemple les menaces ou les outrages à agents. C'est un peu la même logique de filtrage aussi qui est dans le champ des bénéficiaires potentiels, puisque ne sont concernés que les faits commis par des salariés, du privé comme du public, lors de conflits du travail et d'activités syndicales, y compris lors de manifestations, mais les professions libérales ou les exploitations agricoles, par exemple, sont exclus du champ de la loi. Et les salariés licenciés pour une faute ayant fait l'objet d'une amnistie devront être réintégrés, sauf s'il s'agissait d'une faute lourde constituant une atteinte à l'intégrité physique ou psychique des personnes. Genre les patrons séquestrés, quoi. Et de même, les infractions commises lors de mouvements liés au logement sont amnistiables, mais pas celles qui sont intervenues dans le cadre d'actions liées à l'éducation, à la santé, à l'environnement et aux droits des migrants. Et on ne sait pas trop pourquoi, mais ça fait quand même beaucoup de choses qui sont exclues, quoi. Voilà, donc il y a Virginie Claes, une sénatrice du PS, qui était l'auteur de l'essentiel des amendements qui ont été adoptés, qui disait « Il fallait à la fois tendre la main, car il n'est pas forcément facile aux organisateurs des mouvements sociaux de prévenir les débordements, tout en protégeant les biens et les intérêts des tiers. Et une loi d'amnistie efface l'infraction, mais n'efface pas les faits, et surtout n'éteint pas l'action en civil, et n'empêche donc pas la réparation en civil. Si une personne s'est contentée de briser une vitre, cette personne sera amnistiée. Elle devra payer une vitre neuve, mais il n'y aura plus d'inscription sur son casier judiciaire. » Du coup, c'est quand même bien de préciser que, en fait, l'important, c'est quand même que les méchants soient punis. Et puis, surtout, le gros enjeu, c'est ce que précise Christiane Taubira, c'est que ça doit concerner une dizaine de personnes, en fait. Donc, en gros, tout ça pour ça, quoi. Voilà. Et puis rapidement encore un autre point, c'était sur en gros le sexisme dans les grandes écoles. Parce qu'il y a une tribune qui a été publiée sur Rue 89, une tribune collective qui a été signée par Les Simones, donc c'est un collectif féministe de l'ENS à Lyon, par Oser le Féminisme 31 à Toulouse, par Les Gars, c'est un collectif féministe de l'IEP de Paris, Sciences Po Paris, et les féministes des IEP, donc Sciences Po à Toulouse et à Strasbourg. Elles ont publié cette tribune parce qu'il y a eu en gros des faits de sexisme répétés dans plusieurs, notamment des instituts d'études politiques, donc Sciences Po à Paris ou dans d'autres villes, et des ENS, les écoles normales supérieures. Par exemple, le dernier, c'était à Bordeaux, à l'IEP de Bordeaux, un collectif antisexiste qui s'était constitué suite à des provocations sexistes et homophobes. Et en réaction, il y avait une plainte qui a été déposée par la direction de Sciences Po pour diffamation contre le collectif. Quelques semaines avant, donc c'était cette année, au premier semestre là, de l'année universitaire, à l'IEP de Toulouse, il y avait le bureau des sports qui avait organisé une soirée plombier versus chaudière. Et là, je cite un petit bout du fly. Messieurs, amenez vos plus belles caisses à outils et préparez-vous à tâter de toutes les chaudières, du modèle russe ou modèle portugais. Mesdemoiselles, choisissez vos plus beaux brûleurs et thermostats pour une soirée où vous serez les pin-ups de nos spécialistes en tuyauterie de tout poil. Et voilà, donc il y a l'association Oser le Féminisme à Toulouse qui avait réagi. Et le bureau des sports qui s'était défendu en invoquant le second degré et le sens de l'humour beauf. Qui est une justification assez originale. À Sciences Po à Paris, il y avait eu un peu le même truc comme ça avec l'association sportive qui a publié des affiches pour une soirée qu'elle organisait sur lesquelles on pouvait voir entre autres des membres de l'association, enfin un membre, un mec torse nu qui déclarait qu'il n'aimait pas le sexe consenti, texto, enfin c'était écrit comme ça, le sexe consenti. Et sur une autre affiche, une meuf qui posait en bikini sur la plage et qui affirmait qu'elle aimait des SK. Du coup, que des trucs un peu classe comme ça. Et puis à l'ENS, Ulm, donc l'école normale supérieure à Paris, il y avait aussi l'an dernier des affaires comme ça. Il y avait notamment un collectif et puis des féministes qui avaient publié une tribune, je crois que c'était sur 89 aussi, pour dénoncer, en fait là c'était sur pas forcément une affaire, mais en gros les violences sexistes, racistes, homophobes qui sont régulières dans l'école, de l'humour au viol en passant par des insultes ou des attouchements. Et à ce moment-là, il y avait un texte qui avait été publié aussi, qu'on peut pas lire là, mais qui était, je trouverais... en tout cas il s'appelle Violence Normale Supérieure et c'était publié sur Les Mots Sont Importants et je vous le conseille. Et voilà, et donc là je lis juste un extrait de la tribune qui a été publiée cette semaine donc par les différents collectifs qui s'appelle Sexisme dans les grandes écoles, la complaisance des élites au pouvoir. Il semble que sexisme et homophobie mènent la belle vie dans les institutions d'élite. Nous ne voulons pas dire par là que sexisme et homophobie ne concernent pas des établissements d'enseignement supérieur moins élitistes, dont les médias par ailleurs se désintéressent bien plus. Nous soulignons en revanche ceci, il est frappant de constater la complaisance des élites au pouvoir avec les élites en formation au regard des engagements pris pour la lutte contre les discriminations. Voilà, et donc c'est pareil, on peut pas lire toute la tribune, mais en vrai elle décortique bien à la fois tous ces cas là, à Bordeaux, à Toulouse, à Paris, et en même temps comment... Il ne s'agit pas de dire qu'il y a spécialement du sexisme, de l'homophobie ou des discriminations dans les grandes écoles. Il y en a, enfin simplement, c'est une autre forme qu'ailleurs, mais il y en a ailleurs aussi. Et c'est pas non plus pour plaindre les élites, mais c'est juste que justement, ça fait un peu partie d'un système de la construction, de la formation des élites et de la protection de leurs propres élites, quoi, de leur autorité.
Un petit morceau de Mirwais, Junkie Prayers.
We won't change. We won't move.
Et voilà, et donc là on va continuer en écoutant le témoignage d'une personne qui raconte un peu son parcours, en gros ses relations avec la justice et la prison. C'est la première partie d'un entretien qui est plus long, qu'on va passer en plusieurs fois, dans 2 semaines et dans 1 mois. Il a été fait en avril 2012, dernier, par le groupe Enquête Prison. Et donc c'est un groupe de personnes qui font ça, des entretiens, des témoignages, avec des personnes qui ont été incarcérées, pour raconter comment c'est la prison d'intérieur. Et on peut retrouver d'autres entretiens. Celui-là, il est sonore, mais les autres, le plus souvent, ils sont écrits. Ils sont publiés sur un blog qui s'appelle Contre l'enfermement. C'est contre l'enfermement en un seul mot, .noblogs.org. Contre l'enfermement.noblogs.org. Et voilà. Et donc, il y a beaucoup d'entretiens sur la prison par les groupes Enquête Prison. Et là, c'est une partie de ces entretiens.
Beaucoup de garde à vue, moi j'ai dû en faire 3-4 dans ma vie, 24 heures en général, ouais. 24 heures. Moi ouais, c'était jeune, hein. Franchement la première elle m'a pas marqué plus que les autres. Tu sais, t'es enfermé dans une cellule, la seule chose que tu trouves à faire c'est de dormir, quoi. Tu te sens sale, franchement, t'as juste une envie, c'est de prendre une douche et d'être dans un lit. T'as toujours accès à un avocat, à un médecin, souvent si tu le demandes ou pas. En général, tu demandes à avoir tout, parce que même si ça te permet de sortir 2 secondes de la cellule, c'est déjà ça de prix, tu vois. Tu vas pas faire déplacer ton avocat en garde à vue, c'est rare ça. C'est vraiment les mecs, la marginalité, c'est leur vie. Là, on est en 2012, je suis sorti de prison en 2008, ça fait 4 ans. J'ai fait 2 ans et demi de prison, j'étais primaire. J'avais pas de condamnation auparavant, juste de petites affaires insignifiantes. J'ai eu un procès, en fait j'ai été incarcéré en mandat de dépôt, ça veut dire que tu attends ton jugement, ça veut dire que tu es enfermé, présumé coupable. Et j'ai fait la quasi-totalité de ma peine en tant que présumé coupable. Et après mon jugement, il ne me restait plus beaucoup à faire. En fait. J'ai fait 3-4 mois après mon jugement, je suis sorti. Je crois que le mandat de dépôt correctionnel, ça dure 1 an, je crois. Et moi, ça a duré 2 ans, c'était un mandat de dépôt criminel. Ouais, le juge d'instruction, il a décidé que... Étant donné que j'avais été attrapé, j'étais en fuite, quand j'ai été attrapé, ben, c'était logique qu'ils ne me laissent pas ressortir. C'est un peu angoissant dans le sens où ton sort est entre leurs mains. Quoi. Ben, toute l'instruction elle est en criminel, mais ils m'ont fait redescendre en correctionnel avant le jugement. Les avocats, c'est la première chose qu'ils essaient de faire, c'est d'enlever un maximum de charges afin que ça descende au plus bas niveau. Quoi. Au départ, j'avais un commis d'office. J'avais l'impression qu'ils s'en foutaient un peu, mais tu vois, c'est ça, un avocat qui est commis d'office, qui n'est pas payé, il va pas se démener. De toute façon, les avocats, en général, ils viennent pas te voir souvent. S'ils viennent te voir souvent, c'est que tu les payes bien. Parce que, en toute logique, à chaque fois que tu le payes, c'est pour qu'ils se déplacent. Après, j'ai pris un avocat que j'ai payé. Et c'est mieux parce que... Il était plus compétent, tu vois, c'était un plus gros avocat, il était au barreau de Paris. Il était plus habitué à ce type d'affaires que celui que j'avais au départ. Le commis d'office, il venait une fois tous les 3 mois, une fois tous les 2 mois. Ça dépend de l'évolution du dossier. S'il y a plein de nouvelles choses, machin, ouais, peut-être qu'il va être amené à venir te voir plus souvent. Et puis quand ils se déplacent dans une prison, tu vois, en général, ils essaient de venir voir un maximum de détenus dont ils traitent les affaires. il va éviter de se déplacer dans une prison juste pour voir une personne. Donc en général, il essaie d'aligner son agenda pour que ce jour-là, si je vais dans telle prison, bah, je vais voir tous mes dossiers. Je traite un peu tous mes dossiers. Quoi. Il s'est pas foulé, mais en fait, vu la position qu'il avait, il n'avait pas besoin de se fouler. C'était un ténor, il n'avait pas besoin de parler beaucoup. Quoi. De toute façon, j'ai vu qu'il était en confiance, j'ai vu que pour lui, c'était du gâteau. Il y est allé les doigts dans le nez. Quoi. Je l'ai senti. Et même les personnes qui m'avaient conseillé ce mec-là, c'était pas pour rien. Et le juge, il n'a pas été très sévère. Hein. En fait, c'est le procureur. Le procureur, c'était un jeune procureur. Franchement, j'ai trouvé vraiment, contraire à l'image du procureur qu'on a en général, qui lui, veut vraiment t'éclater la gueule, le procureur qu'on a eu, vraiment, il n'était pas du tout comme ça. Et vraiment, il a tenu compte du fait que je suis primaire, que machin, que je suis réinsérable, tout ça. Il a vraiment pris en compte tout ça. Il a entendu. À 5 ans, 2 ans de sursis. Et ça fait 3 ans ferme. Quand je suis rentré en prison, j'avais 22. Et quand je me suis fait juger, j'avais 24. Je pense que je l'ai beaucoup mieux vécu parce que tu vois, si t'arrives en prison, t'es au début de ta peine et qu'on te dit t'as tant à faire, je pense que ton moral est plus facilement cassable que si tu rentres et que c'est incertain, donc tu peux, t'as de l'espoir, tu peux te dire ah, je sais pas pour combien de temps je suis là, donc je peux espérer le minimum. Tandis que si tu viens, tu rentres, tac, c'est le premier jour, on te dit ah t'es là pour tant de temps, je pense que ça te met un coup dans la gueule. Les permissions de sortie, c'est après ton jugement. Et comme je suis sorti peu de temps après mon jugement, j'en faisais tout le temps. Tout le temps. Je savais très bien que j'allais pas y avoir accès, mais je suis sorti en fin de peine. J'avais tout fait. Et j'aurais pu sortir beaucoup plus tôt, mais il se trouve que les travailleurs sociaux qui sont là pour t'aider dans tes démarches administratives, machin, ils se sont pas foulés, ils se sont pas bougé le cul, c'est-à-dire que j'aurais pu sortir bien 7 mois. En fait, j'aurais pu sortir dès mon jugement, j'aurais pu déjà être libérable. Pourquoi ? Parce que pendant toute ma peine, j'ai cumulé toutes les activités qui donnent accès à des remises de peine, tout ça, et j'avais droit en tout à 7 mois de remise de peine, j'en ai eu qu'un, alors que pendant toute ma peine, j'ai fait toutes les activités, j'ai eu aucun problème. Si j'ai eu un problème une fois, j'ai eu 10 jours de mitard, mais c'était au début de ma peine, tout ça, machin, donc je suis excusable dans le sens où je connais pas la prison, machin, c'est excusable que tu pètes un câble, machin. Mais sinon, j'ai eu un comportement exemplaire, tout ça, et malgré ça, j'ai pas eu le droit au maximum de RPS que j'avais droit. Pourquoi ? Parce que les travailleurs sociaux sont pas foulés le cul pour justifier auprès du juge qui décide des remises de peine, pour justifier de toutes les activités auxquelles j'avais participé, machin. Ça change tout le temps, les travailleurs sociaux. C'est, t'en as un, parce que c'est des gens qui sont souvent mutés, machin, tac tac, donc t'as jamais le même très longtemps. Hein. Quand t'en as un, il te voit jamais, tu communiques avec lui, tu lui envoies des courriers, tu sais même pas s'il les reçoit. Tu réponds même pas pour dire quoi que ce soit, enfin bref. Et moi, dès que j'ai été jugé, j'ai envoyé des courriers pour dire machin, j'ai été jugé. Merci de justifier de toutes les activités que j'ai faites, machin, et j'ai jamais reçu une réponse. En tout cas, moi, je suis passé devant personne, on m'a pas convoqué devant personne. L'information, tu l'as entre détenus, les détenus les plus aguerris peuvent te donner des conseils encore. Si c'est le téléphone arabe, c'est-à-dire qu'il y en a un qui te dit un truc, l'autre il va te dire tout le contraire, donc tu sais jamais vraiment. Il y a un écrivain public qui est censé être là pour aider les détenus, un écrivain public qui est un détenu lui-même. Non, un médiateur, je crois. Enfin, je sais plus comment ils appellent ça. Il y a un détenu qui est désigné en tant que genre celui qui connaît, quoi, qui peut aider les autres détenus, machin. Et même lui, pour accéder, pour aller le voir, c'est toute une bataille. De toute façon, pour transmettre les informations quand t'es en prison, c'est toujours une bataille. Que ce soit pour une fuite dans ta cellule ou je sais pas, n'importe quoi, n'importe quelle information, c'est une bataille pour qu'elle remonte à la hiérarchie. J'ai fait des demandes de psychologue au début, je crois, parce que ça aussi, ça te donne accès à de l'RPS. Mais franchement, j'ai été convoqué devant le psychologue, je savais même pas quoi lui dire, donc au final, j'y allais pas. T'as l'impression que c'est le psychologue qui est en face de toi qui a un souci psychologique. Et franchement, j'ai essayé deux fois, mais peut-être que lui aussi, il a senti que j'avais demandé rendez-vous juste par intérêt, mais qu'en fait, j'avais pas besoin de lui, quoi. Donc, il s'est... Enfin, je sais pas, en tout cas, je me suis retrouvé deux fois devant le psychologue, j'avais rien à lui dire. Il y a des rapports de psychiatre. J'en ai vu, je crois que deux fois, parce que je crois qu'il y a une expertise et une contre-expertise. Et eux, pareil, hein, les deux psychiatres, j'ai l'impression d'être en face de deux fous, quoi. Et même j'ai essayé de lancer un débat avec eux, tu sais, genre, savoir leurs critères, sur quoi ils se basent. Même j'essaie de leur parler des sens psychologiques en général, tu vois. Leur montrer moi ce que je pensais de ce que c'était, que c'est des sciences qui sont basées sur des critères, sur des codes. Mais chaque individu est différent, il perçoit les choses différemment. Tu peux pas établir de critères de jugement sur... Enfin, ça va loin ce débat, tu vois. Bah, il me calculait pas en fait, il continuait dans son truc, tu vois. Il cherchait pas à rentrer dans mon débat, tu vois. C'est que vraiment le mec il est là, il te regarde, et il va interpréter tout ce que tu vas faire. Mais moi j'essayais d'interpréter ce que lui faisait en fait. Donc à partir de là, comment tu veux que lui. Comment tu veux que ce qu'il a écrit sur sa feuille, ce soit crédible, peu importe ce qu'il a écrit. Hein. Mais il n'a pas écrit de trucs spéciaux, il a écrit que c'est quelqu'un de normal, machin. Mais comment tu peux faire un trait d'une personnalité basée sur des critères qu'on t'a appris dans un certain cycle d'études sur un individu que tu vois en 10 minutes. Tu peux lui dire ce que tu veux, c'est-à-dire que on va faire trois fois le même rendez-vous avec le même psychiatre. Je vais lui répondre trois fois des choses différentes. Et il va faire trois expertises différentes. Donc à partir de là, ça n'a aucune valeur. Enfin voilà, quoi, pour juste en avoir. Donc du coup t'as peur de ce que tu vas dire au psychiatre, tu sais pas trop comment tu dois la jouer pour que ça joue en ta faveur. Si tu parais quelqu'un de calculateur qui contrôle tout ce qu'il fait et machin, tu vas clairement passer pour un mec. Qui sait vraiment ce qu'il fait et qui a pleinement été conscient de ce qu'il a fait, qui l'a organisé, tu vois. Donc c'est bien aussi de passer pour un con, tu vois. Oui, il te brief. Mais bon, ça c'est le briefing classique, je pense. C'est genre fait profil bas, demande des excuses, tout ça. Tu vois, il y avait un avocat de partie civile, je crois, mais les parties civiles en elles-mêmes, elles n'étaient pas présentes. Ils n'avaient rien demandé en fait, ils n'avaient pas demandé de dommages à intérêt. Ils avaient juste demandé à ce qu'on pourrisse en cage.
Et voilà, donc la première partie d'un entretien où on écoutera le reste dans deux semaines et dans quatre semaines au prochain Canu Info du vendredi. Des luttes sociales, paradoxalement, et pas sur les prisons. On continue avec quelques nouvelles des mariages homo pour changer. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, puis on n'en parle plus trop en France. Du coup là, on va parler des mariages homo et du regroupement familial aux États-Unis. Puisque donc aux États-Unis, le mariage entre les couples de personnes de même sexe, c'est autorisé dans 10 États. Mais l'État fédéral ne reconnaît pas ce mariage. Et l'enjeu, en fait, en ce moment, c'est la réforme de l'immigration qui avait été promise par Obama pendant sa campagne, la deuxième campagne, quand il a été réélu l'an dernier. Obama, il a défendu le mariage pour tous, ce qu'on appelle maintenant le mariage pour tous en France, ce qui fait espérer à certains couples ou à certaines associations LGBT aux États-Unis la possibilité d'obtenir les mêmes droits d'immigration que les couples mariés hétérosexuels. Mais c'est pas que Obama qui va décider, puisque ça joue beaucoup au Congrès, où démocrates et républicains négocient en ce moment sur une remise à plat ambitieuse du système d'immigration. En gros, ils remettent tout... Enfin, ils veulent tout refaire, tout péter, tout refaire, avec la régularisation probable de nombre des 11,5 millions de sans-papiers qu'il y a aux États-Unis. En gros, là, en ce moment, il y a un consensus fragile qui s'est formé autour d'un principe de base qui serait d'accorder des papiers à ceux qui sont arrivés enfants, ceux et celles qui sont arrivés enfants dans le pays et qui n'ont jamais enfreint la loi. Après ce consensus, ce petit consensus, parce que c'est quand même pas fou, mais bon. Et ben, y a certains démocrates qui voudraient aussi aller plus loin et créer la catégorie d'immigration de partenaire permanent. Donc l'objectif, c'est de contourner la loi défense du mariage, la loi DOMA, défense du mariage, qui a été votée en 96 et qui interdit la reconnaissance par l'administration des mariages entre personnes de même sexe. Mais il y a aussi les républicains qui contrôlent une minorité de blocage au Sénat et la majorité à la Chambre et qui estiment que le sujet est secondaire. Et par exemple, il y a John McCain qui a déclaré il n'y a pas longtemps quel est le plus important, les droits LGBT ou la sécurisation de la frontière. Donc c'est bien le truc avec les luttes prioritaires, les luttes secondaires. Et puis l'enjeu, c'est quand même le contrôle des frontières, toujours l'immigration. Et là, c'est bien lié. Et même Lindsey Graham, une autre sénatrice républicaine, qui disait « Et pourquoi pas la légalisation de l'avortement pendant qu'on y est ?» Du coup, c'est l'occasion de parler de n'importe quoi, mais en même temps, c'est aussi l'occasion de redire que dans l'accès aux droits comme ça, il y a des enjeux un peu concrets, notamment pour les personnes migrantes. Une mini pause musicale ? Continue avec l'histoire d'une association à Calais qui s'appelle La Belle Étoile. C'est une association qui distribue depuis 2002 des repas, qui fonctionne avec une subvention de 20 000 euros de la région et des dons. Et ça sert à financer une salariée. Et sinon, il y a aussi une trentaine de bénévoles qui y participent. Les repas, ils sont servis principalement à des personnes migrantes qui sont originaires d'Égypte ou de Syrie ou d'Afghanistan ou d'autres pays, notamment du Proche Moyen-Orient, qui sont venus à Calais pour traverser la Manche et pour aller en Angleterre. Enfin voilà, on connaît un peu la situation à Calais. La distribution, ça se fait sur un terrain sur le port et en général sous la surveillance de flics. Et par exemple, un exemple de repas, c'est une barquette de riz, un gobelet de thé et un sachet qui contient une banane, deux quarts de baguette, une boîte de fromage fondu et une brique de lait chocolaté. Donc c'est pas fou, c'est pas génial, mais ça permet quand même à plusieurs centaines de personnes de se nourrir tous les jours. Et le dernier repas était servi jeudi dernier, parce qu'en décembre, l'association a décidé de se dissoudre. Et c'est ce qu'explique Monique Delannoy, pardon, sa présidente, en disant « C'est un gros coup de colère, un ras-le-bol de cette situation qui dure. Il n'est plus question qu'on utilise pour faire comme si, qu'on nous utilise pour faire comme si tout allait bien. » Et donc, elle veut mettre l'État et les collectivités locales devant leurs responsabilités. Voilà, donc c'est toujours le truc un peu compliqué où à la fois, c'est, on se dit c'est chouette quand des associations réagissent comme ça, qu'elles ne remplacent pas des trucs... Enfin, leur rôle qui ne soit pas de compenser des politiques de l'État. Et en même temps, ce qui fait qu'il y a des personnes qui comptaient dessus et qui sont un peu dans la merde maintenant. Mais en même temps, c'est là qu'arrive Benoît Hamon, en pleine affaire de la viande de cheval, et qui a trouvé la solution. Donc là, l'affaire de la viande de cheval, on en parle tout le temps. Là, c'est les plats cuisinés qui ont été retirés de la vente parce qu'ils affichaient contenir de la viande de bœuf et qui en fait contenaient de la viande de cheval. Et donc Benoît Hamon, qui est ministre de la Consommation, il a annoncé que ces plats pourront être distribués aux associations caritatives qu'il souhaite. Puisqu'il existe, il a dit, une disposition réglementaire qui prévoit qu'on puisse faire le don de produits qui ont connu un défaut d'étiquetage. Et ensuite, c'est aux associations de décider si oui ou non, elles acceptent ces dons. Donc super, ça fait bien plein de trucs à recycler. C'est une bonne grosse quantité de nourriture, puisque pour l'instant, il y a Findus, Fleury Michon, Carrefour, Intermarché, Picard, Wikea, qui ont été obligés de retirer des millions de plats cuisinés de la vente. Et comme les contrôles vont être étendus dans les filières alimentaires, on peut s'attendre à ce que, à ce qu'on découvre de nouvelles fraudes. Après, ce qui est bizarre, c'est que le problème dans cette affaire, c'est un peu le fait de manger du cheval à la place du bœuf, parce qu'il y a des personnes pour qui c'est un problème de manger du cheval, comme pour d'autres de manger du porc ou de la viande en général, mais aussi le problème, c'est le fait de ne pas savoir ce qu'on mange. Et Hamon, quand même, sympatoche, il précise que ceux qui bénéficieront de ces produits alimentaires, donc redistribués par les associations, ont droit à la réalité sur ce qu'ils mangent. Du coup, ils n'auront pas le droit de manger ça ou autre chose, mais par contre, ils pourront savoir que c'est ce que tous les autres n'ont pas voulu. Voilà, et donc ça c'était Cap Bambino. Et puis pour terminer, encore une info en Tunisie. Donc en Tunisie, il y a l'opposant Chokri Belaïd qui a été assassiné il y a quelques semaines, et il y a le nouveau gouvernement qui n'est toujours pas formé, donc c'est un peu un moment de crise politique. Mais encore en plus, cette semaine, avec l'apparition du Harlem Shake. Alors le Harlem Shake, c'est quoi? C'est, en gros, ça consiste... Là, ça vient d'un article de Libération qui décrit ça comme ça. Ça consiste à se déguiser n'importe comment, puis à danser dans tous les sens, si possible de façon caricaturalement sexuelle, puis à poster la vidéo sur YouTube. Et ça se fait sur une musique, c'est celle-là. Voilà. Donc en gros, il y a plein de gens dans le monde entier qui font des vidéos sur YouTube avec cette musique-là en dansant n'importe comment. Et en Tunisie aussi, puisque la semaine dernière, il y a plusieurs dizaines d'élèves qui s'étaient réunis dans la cour du lycée Père Blanc, dans un quartier un peu bobo de Tunis, habillés ou en salafiste, ou en immer du golf, ou simplement en caleçon, et qui ont dansé n'importe comment et qui sont filmés. Et dimanche, le lendemain, le ministre de l'Éducation, qui représente aussi le PS, le Parti Socialiste et Takatol dans la coalition gouvernementale, a dénoncé, je cite, « des dépassements du point de vue moral, un déguisement indécent et un habit vestimentaire impudent ». Donc dès lundi, l'inspection a été saisie contre la directrice, le personnel enseignant et plusieurs élèves, et depuis, le lycée est placé sous la protection de deux fourgonnettes de police. Il y a eu quand même des critiques à cette réaction. On a reproché au ministre d'être plus prompt à s'avenir contre une danse potage que contre les djihadistes qui, à plusieurs reprises, ont planté leur stand de prédication à la sortie des établissements. Ça, je sais pas trop ce qu'il faut en faire, mais bon, c'est comme ça que c'était dit dans l'article. Et en tout cas, depuis, la polémique a pris de l'ampleur, puisque la page du ministère de l'Éducation a été momentanément piratée en représailles. Des Harlem Shake ont proliféré dans les lycées, les universités, et de nombreux lycéens et étudiants ont à leur tour posté leur version pour afficher le soutien aux jeunes de Père Blanc. Il y a eu des réactions aussi de groupes salafistes, par exemple il y a eu un peu des bagarres à la faculté des lettres de Manouba, près de Tunis, ou à Regueb, une ville phare de la Révolution, mais aussi des versions du Harlem Shake sur des pages Facebook islamistes, donc je ne sais pas ce que c'est, mais c'est des pages Facebook identifiées comme islamistes, sur lesquelles par exemple il y avait un jeune homme qui se retrouve tout seul à danser quand ses camarades préfèrent suivre l'appel à la prière. Voilà, et puis aujourd'hui il y a Inès Abichou, ou alors aussi aka Miss Inès, une DJ franco-tunisienne, qui avait organisé un Harlem Shake géant en protestation contre la réaction du ministre devant le ministère de l'éducation à Tunis. Et il y a près de 10 000 personnes qui s'étaient inscrites sur Facebook pour participer. Et donc Miss Inès, elle avait déclaré que la polémique, je cite, soulève des questions importantes de liberté d'expression, de droit à l'anticonformisme. Et en fait, elle avait aussi dit que plutôt elle voulait dépolitiser son action parce qu'il y avait tellement de gens qui voulaient venir. Surtout qu'en fait, il y avait juste une quarantaine de personnes qui a participé. Mais quand même, c'était marrant de voir comment c'est un truc un peu débile au départ, de fait, était politisé devant le ministère de. En l'occurrence, devant le ministère de l'Éducation, quoi.
C'était le Canu Info du vendredi.
Et voilà, et donc c'est fini.
Et bonne soirée.
Et tout de suite.
Maintenant,
Noise Pollution.
Oui.